Eh bien, nous allons repartir pour une nouvelle table ronde sur la thématique de l'homme augmenté, de la numérisation à la mémoire éternelle. Alors, c'est vrai que si les thématiques mécaniques du corps, on les connaît, on a déjà des idées assez précises. On sent bien qu'aujourd'hui, tout ce qui touche à la mémoire, au cerveau, aux neurosciences, ça fait encore beaucoup rêver, beaucoup fantasmer, beaucoup de peur. Et pour en parler avec nous, donc nous avons deux scientifiques qui travaillent dans ce domaine. Donc, tout d'abord, Monsieur Eustache, qui est neuropsychologue. Donc, vous allez nous expliquer plus en détail votre travail, vos connaissances sur le fonctionnement même de la mémoire. Et Monsieur Berger, qui fait des recherches sur l'implantation de systèmes dans le cerveau au moyen de micro et de nanotechnologie. Alors, présenté comme ça, c'est vrai que c'est typiquement les choses qui peuvent intriguer, où on se dit jusqu'où on peut aller. Donc, vous allez nous expliquer aussi très concrètement ce que l'on sait faire, ce que l'on peut faire, mais qu'on n'ose pas faire. Et pour également apporter le regard critique qu'apporte la littérature, le regard un peu distancié de ce qui se passe au laboratoire, peut-être aussi avec un peu de prospective, Gérard Klein, qu'on ne présente plus, mais qui a écrit plusieurs nouvelles dont la mémoire est une thématique et qui a aussi beaucoup réfléchi à cette problématique de mémoire à long terme, de travail sur les capacités augmentées, les capacités intellectuelles augmentées de mémoire, de travail du cerveau. Et Ian MacDonald, pour qui les nouvelles technologies sont aussi source d'inspiration et de questionnement. Bien, je vais commencer par donner la parole à Monsieur Eustache, qui va nous expliquer ce que vous savez, vous, du fonctionnement de la mémoire et du cerveau.
Merci. Bonjour à tous. Oui, d'abord, peut-être préciser ce que je fais pour ensuite vous parler de la mémoire, parce que la mémoire, on peut la définir de multiples façons, et ces façons, elles sont tout à fait tributaires du métier que l'on fait. Alors moi, je suis neuropsychologue, je suis chercheur, je dirige une unité de l'INSERM à Caen, qui travaille sur la mémoire humaine et ses maladies, donc qui est étudiée par différents tests de mémoire que l'on fabrique, que l'on met au point, et on utilise aussi beaucoup des techniques d'imagerie du cerveau, donc qui permettent de visualiser l'activité, par exemple, du cerveau quand quelqu'un, soit quelqu'un de sain, soit un patient, se livre à une activité de mémoire. Voilà pour le travail que je fais. Alors, la mémoire, comment on peut la définir simplement? On peut la définir simplement. Puis après, je pense, plus on va rentrer dans le débat, plus on va voir en fait que c'est une fonction complexe. La mémoire, c'est la fonction qui nous permet d'encoder, c'est-à-dire d'enregistrer des informations, de les stocker plus ou moins longtemps, et puis aussi de pouvoir les récupérer, le but étant de pouvoir les récupérer. Donc vous voyez, ça paraît relativement simple comme ça. En fait, les situations qui correspondent à ces trois grands moments sont extrêmement diverses. Par exemple, tout de suite, vous encodez ce que je vous dis, vous tentez d'encoder ce que je vous dis, vous faites un effort de mémoire. En fait, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses que l'on encode sans faire un effort de mémoire. Il y a même essentiellement beaucoup, beaucoup de choses que l'on apprend comme ça sans faire un effort délibéré de mémoire. Deuxième stade, le stockage. On peut essayer de retenir une information pendant une durée brève. Par exemple, un numéro de téléphone, le temps d'aller le composer sur le combiné de téléphone. Et puis, au contraire, on peut stocker des informations sur des durées très longues, voire la vie entière. Alors, c'est là que les choses se compliquent. Pour parler de la mémoire, souvent, on utilise des métaphores. Alors, il y a l'ordinateur, évidemment, aujourd'hui. Il y a les bibliothèques, où il y a un sac qu'on remplit, on met des tas de choses dedans. Il n'y a pas vraiment une bonne métaphore de la mémoire. Mais, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que ce n'est surtout pas quelque chose de figé. Parce que le but du fonctionnement de la mémoire, c'est donc d'enregistrer des informations. Mais ces informations vont avoir des statuts très divers. Et d'ailleurs, la plupart des spécialistes de la mémoire s'accordent sur le fait qu'il n'existe pas une mémoire. Bon, ça ne me gêne pas de parler de la mémoire en général, mais il existe plusieurs systèmes de mémoire. Il y a des systèmes de mémoire, par exemple, qui vont nous permettre d'automatiser certaines procédures. Par exemple, conduire une voiture ou faire du vélo, etc. Il y a des connaissances qui vont plus être de l'ordre des savoirs généraux sur le monde. Par exemple, on sait que Rome, c'est la capitale de l'Italie. On a des connaissances générales comme ça, que l'on acquiert au fil du temps. Et puis, il y a la mémoire également des souvenirs, qui est très importante. C'est à celle qu'on pense le plus quand on parle de la mémoire. Et c'est celle qui a été le plus traitée dans les ouvrages de science-fiction ou tout simplement dans la littérature. Je pense à la maison du docteur Edwards, par exemple. C'est une représentation de la mémoire épisodique et de sa perte qu'est l'amnésie. Donc, si on se concentre sur le moment central qu'est cette période de stockage de l'information, vous voyez que les mots ne sont pas bons, puisque l'information, elle ne va pas être stockée comme ça, comme elle pourrait l'être dans une bibliothèque, par exemple. Elle ne va pas non plus être vraiment consolidée. J'utilise le terme de consolidation, parce que c'est souvent un terme qui est utilisé et qui fait référence comme ça à des informations qui vont être mises en mémoire, qui vont être répertoriées. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que les informations, au fil du temps, et en grande partie à notre insu, vont être transformées, vont être modifiées, vont changer de statut. Certaines d'entre elles, en fait très rares, vont pouvoir rester, peu ou prou, au statut de souvenir. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre tête des souvenirs d'événements très particuliers qui nous ont marqués, qui correspondent souvent à un moment charnière de notre vie. Mais en fait, ces souvenirs, ces vrais souvenirs, sont en fait très rares. Et en fait, l'essentiel de nos connaissances, ce sont justement des connaissances qui se sont décontextualisées au fil du temps. Hein, si on prend l'exemple de la conférence ici, peu importe la couleur de ma chemise ou la couleur du t-shirt de mon voisin, ce qui va compter en fait dans vos esprits, c'est comment notre discussion va changer la représentation que vous avez du concept de mémoire. Et en fait, ce soir, vous ne serez pas forcément dans la meilleure condition, parce que ce soir, vous allez vous souvenir qu'il y avait 5 personnes devant une table, etc. Ce qui sont des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Par contre, dans un mois ou dans quelques mois, on peut penser que votre connaissance de la mémoire aura changé. Donc, vous voyez, quand on entre comme ça un petit peu dans le détail du fonctionnement de la mémoire, on voit qu'on a affaire à une fonction extrêmement complexe, et le titre de la table ronde qui est « L'homme augmenté », c'est en fait un titre extrêmement ambitieux. Parce que augmenter cette mémoire, ce n'est pas simplement rajouter des puces qui vont nous donner des connaissances supplémentaires. Augmenter la mémoire, ce serait potentiellement pouvoir augmenter ce pouvoir de transformation de la mémoire, vous voyez, qui fait que les informations changent de statut au fil du temps. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus complexe qu'un simple ajout comme on pourrait le faire dans un ordinateur.
Bien, merci. Maintenant, nous allons laisser la parole à François Berger pour nous expliquer également son travail sur le fonctionnement du cerveau et sur éventuellement l'augmentation des capacités.
Merci. Bonjour à tous. Donc, je voudrais d'abord me présenter, ce qui va permettre de préciser quelque chose de fondamental. Je suis médecin neurologue, donc je dirige une équipe INSERM qui s'intitule Nanomédecine des cerveaux, dont le but est d'apporter des réponses à des problèmes médicaux à travers les micro-nanotechnologies, éventuellement l'électronique. Donc, premier point important, en tant que médecin, je n'ai pas le droit d'augmenter l'homme, mais je n'ai le droit de m'adresser qu'à l'homme malade pour le réparer. On discutera probablement de ces problèmes éthiques qui sont extrêmement importants. Donc, le rôle de notre équipe, et qui n'est pas par hasard à Grenoble, hein, c'est justement d'utiliser les micro-nanotechnologies et l'électronique pour pallier à des déficiences, peut-être à terme les déficiences mnésiques. Donc, pourquoi à Grenoble ? Pour deux raisons. Que c'est à Grenoble que l'électrostimulation a été inventée, et parce qu'il y a à Grenoble un gros centre de micro-nanotechnologies qui a été fait pour l'électronique. Donc, ça veut dire que la médecine est en train de bénéficier de toute la miniaturisation qui a été mise en place pour vos téléphones portables et pour les ordinateurs. Donc à ce niveau-là, hein, qui est un niveau qui n'est pas celui des drogues, je ne parlerai pas du tout de l'action des drogues, mais de l'action de dispositifs technologiques possiblement implantés. Premier élément qui n'est pas nouveau, c'est stimuler dans le cerveau. Et le cerveau, c'est un réseau électrochimique. Donc si on stimule, si on met de l'électricité dans le cerveau, on va agir sur le cerveau. Et donc c'est très très vieux, hein, puisqu'au début du siècle dernier, Pelfield avait montré que si on stimulait certaines zones du cerveau qu'on retient maintenant comme étant la localisation de la mémoire, on pouvait faire rappeler des souvenirs anciens. Et la neurostimulation, donc, elle a, je dirais, explosé récemment avec la démonstration donc, d'Alim Louis Benhabib, neurochirurgien grenoblois, qu'on pouvait traiter la maladie de Parkinson, enfin ses symptômes, en stimulant des zones profondes du cerveau. Et donc on est revenu à la mémoire très récemment, hein, puisqu'il y a environ un an, un Canadien à Toronto, à Lozano, a montré que si on stimulait les mêmes des zones de la mémoire, on pouvait améliorer certaines fonctions mnésiques, en particulier chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et il a montré qu'on pouvait aussi améliorer l'imagerie du cerveau qui présentait des caractéristiques anormales d'habitude chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc des données très 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 préliminaires, puisque c'est 5 à 10 patients, mais qui montrent qu'avec le courant électrique, comme on l'a fait avec succès dans la maladie de Parkinson, on peut peut-être moduler la mémoire et ralentir la maladie d'Alzheimer. La deuxième stratégie, vous voyez, stimuler, puis après c'est clair, c'est ce qui vient d'être dit, la mémoire c'est extrêmement complexe. Donc il y a un rêve qu'on voit dans beaucoup de livres de science-fiction, c'est est-ce qu'on peut faire une électronique synthétique et greffer une sorte d'ordinateur dans le cerveau. On voit ça, on voit des choses beaucoup plus belles comme cette perle métaphorique. Donc là, il faut bien voir hein, que la conception ordinateur du cerveau et de la mémoire, c'est une conception simpliste. C'est beaucoup plus compliqué que ça et actuellement, aucune personne ne sait faire ça. Alors, vous avez dû entendre parler, on en a parlé aux 20h la semaine dernière, du projet BlueBrain, qui est un énorme projet européen qui sera peut-être sélectionné, où l'Europe veut mettre 1 à 2 milliards dans des projets en rupture complète. Et donc le projet BlueBrain a pour but de modéliser le cerveau dans un ordinateur. On pourra en discuter, c'est pas sûr que ça soit possible. Ce qui est possible, c'est de faire des interfaces entre le cerveau et des machines. Donc ça a été fait dans les 2-3 dernières années. Des patients qui ne bougent pas, qui sont tétraplégiques, on va mettre une puce au niveau de leur cerveau qui va permettre de capter l'activité cérébrale. Et puis quand le patient va vouloir bouger un bras, par exemple, eh bien on va interpréter cette activité cérébrale pour faire bouger quelque chose à l'extérieur. Autre exemple très simple, hein, c'est les prothèses auditives, les implants cochléaires. Donc vous voyez, émergent des technologies, clairement chez l'homme, qui permettent d'interfacer le cerveau et son activité avec des dispositifs extérieurs. Donc ça, actuellement, c'est en train d'avancer. On n'est clairement pas capable de mimer la mémoire. L'enjeu majeur, c'est d'avoir des programmes, des algorithmes qui vont pouvoir mimer cette complexité. Et là, actuellement, on en est très très loin. Troisième possibilité, qui est probablement l'avenir, c'est de reprogrammer le cerveau au niveau cellulaire et au niveau moléculaire. Et là, c'est d'injecter, soit par le sang circulant, soit localement, des nanoparticules qui vont pouvoir réactiver les cellules souches du cerveau et réactiver, reconstruire le cerveau au niveau de ses circuits mnésiques. Donc ça a été fait chez l'animal et c'est probablement une des perspectives, à mon avis, qui émergera plutôt que les fantasmes d'électronique embarquée.
C'est quand même assez impressionnant ce que vous nous racontez dans les possibilités et dans les modes de travail sur le cerveau. Alors, Gérard Klein, est-ce que vous voulez continuer sur comment vous-même vous avez envisagé dans vos nouvelles les possibilités d'augmenter les capacités de mémoire ou d'augmenter les capacités cognitives d'un individu?
Oui, dans ma nouvelle Mémoire vive, mémoire morte, qui date tout de même de 1986, donc il y a une bonne quinzaine d'années, enfin il y a juste une quinzaine d'années, j'imagine qu'on parvient à doter les êtres humains de ce que j'appelle la perle, à laquelle M. Berger a fait allusion, qui est une espèce d'ordinateur, qui est logé à proximité de l'hippocampe, c'est-à-dire une partie du cerveau, un siège du cerveau qui est très important dans les processus de mémoire, et par une interface permet au système nerveux, enfin au cerveau, d'enregistrer et d'indexer ce dont il veut se souvenir. Alors, ça fonctionne comme un ordinateur. Je ne vous donnerai pas les plans parce que je n'ai pas le droit. Mais ça fonctionne comme un ordinateur. Mais simplement, il est directement interfacé avec les neurones, la matière cérébrale. Et on implante cette perle dans l'embryon de façon à ce que son cerveau, qui se développe extraordinairement vite, puisse établir les bonnes connexions avec cet objet technologique. Et j'avais prévu à l'époque que la capacité serait d'un terabit à peu près, ce qui assez récemment a été évalué dans un projet assez fou d'ailleurs, comme tout ce qu'on pourrait enregistrer dans une vie, comme notes, souvenirs, vidéos, photos, enfin, etc.
Est-ce qu'à l'époque, il y a eu des réactions des scientifiques en fonction des connaissances à cette nouvelle
pas que je sache.
Non, d'accord. Personne n'est venu faire des remarques directement, en tous les cas.
Non, pas que je sache. Peut-être qu'il y en a eu, mais enfin, je ne sais pas.
D'accord. Vous voulez...
Rétrospectivement, c'est quand même très intéressant, parce qu'en tant que scientifique, la question qu'on peut se poser par rapport à la science-fiction, c'est est-ce qu'il y aurait des nouvelles idées scientifiques qui pourraient émerger dans les livres de science-fiction ? Et là, vous étiez très précurseur, parce que ce que j'y vois, moi, maintenant, rétrospectivement, c'est que je vous ai parlé d'interface cerveau-machine. Il faut savoir qu'actuellement, ça ne marche pas, parce que quand vous mettez quelque chose de miniaturisé dans le cerveau, c'est rejeté par une cicatrice, comme quand vous vous blessez au niveau de la peau. Et la clé, elle a été trouvée il y a un peu moins d'un an, c'est de mettre justement des particules toutes petites, des nanoparticules, qui viennent faire une symbiose avec le tissu du nano-diamant, des nanotubes de carbone. Et dans la métaphore de la perle, je vois quelque chose qui se rapproche vraiment de ce qui est en train d'émerger en nanomédecine.
Tout à fait, c'est d'ailleurs très exactement à ça que je pensais. En fait, cette perle telle que je la décris est composée de couches concentriques, mais qui sont perforées, si bien que les neurones peuvent projeter des axones à l'intérieur, enfin, et il faut que ça se passe à un niveau très précoce du développement du cerveau pour que les choses se mettent en place. Alors dans ma nouvelle, je dis aussi qu'on l'a fait sur un certain nombre d'adultes, dont le créateur du procédé. Ça a marché, mais beaucoup, beaucoup moins bien. Enfin, et il y a d'ailleurs, au début de la nouvelle, le problème de la femme, puisqu'elle est enceinte de 3 mois. Il faut évidemment son acceptation. Alors on lui explique qu'il n'y a pratiquement pas de risque. Mais enfin, elle engage non pas son corps, mais l'avenir de son enfant avec d'éventuels bénéfices considérables. Et comme le montrera ma nouvelle, qui est un peu romantique, des méfaits possibles.
Bien.
Pas des méfaits physiologiques, hein, c'est pas le problème. Le problème, il est sociologique, c'est-à-dire que les gens, excusez-moi, commencent à échanger des souvenirs, et à se livrer au jeu du prête-moi ta vie. Puisqu'on peut ressortir les informations, etc., si bien que, disons, quelque chose de l'individualité se perd. Cela étant, si vous pouvez me greffer une perle, je suis partant.
Et vous, Ian MacDonald, alors, quelles sont soit les choses que vous avez déjà proposées, soit les rêves que vous auriez de possibilité de jouer avec les capacités de mémoire de l'être humain et... Qu'est-ce que vous en pensez?
Yeah, this is great because this allows me to create a bit of a sense of anticipation about my next novel, which is coming out next year. The Dervish House, set in Istanbul in 2027. And one of the key technologies is what happens when we get... What happens when we get wide-scale, commonly accepted, easily available... brain-enhancing nanotechnology. What happens when, if you're a kid in school and you want to pass an exam, you just snort some stuff up your nose, and then everything you've learned that year, you can remember in complete and total recall. And once you've finished your exam, the nano flushes itself out of the system and is gone. What happens when we get, in this case, commodity traders working in the stock exchange in Istanbul? What happens to them when they go cold turkey and have withdrawal symptoms from years and years of using nanotechnology to basically focus their concentration, make them incredibly bright, incredibly intelligent, and incredibly aggressive all at the same time? What happens when they stop doing that and it all starts to crash and go cold turkey? And perhaps one of the central questions of the book is, can we use nanotechnology to give people religion? If someone, say, invented a nanotech device and, say, put it into some kind of mechanism that dispersed it, like somebody blowing themselves up on a tram, say we did that, could we then, in a sense, create mass religious conversion among people just by, you know, just through the right form of engineered nanotechnology? And the question I'm asking behind this is, how much of what we feel and what we believe is actually chemically manufactured, and how much can be artificially induced? And these are kind of some of the questions I'm raising in the book, and it's nice to have people who can give the answers sitting on either side of me. So these are kind of issues I'm looking at in the next book. So, yeah.
Alors, en particulier concernant l'apparition, la génération de sentiments ou de ressentis, ou qu'est-ce qui est possible, je ne sais pas si vous voulez répondre sur l'être humain. Enfin, qu'est-ce qu'on peut induire comme phénomène? Par exemple, là, il parlait de sentiments religieux, ou pas forcément envoyer de nouvelles informations, mais envoyer un nouveau mode d'acquisition des nouvelles connaissances, reprogrammer la façon d'apprendre. Est-ce que ça... Enfin, je ne sais pas si l'un ou l'autre...
Moi, je suis pas vraiment spécialiste de ces problèmes-là. Vous faites référence là aux manipulations d'informations, etc. C'est ça que vous... Ouais. Donc... schématiquement, on connaît, disons, les ingrédients qui vont faire qu'on va mieux apprendre certaines choses. Donc il y a la notion émotionnelle, bon, qui est bien connue des publicitaires et disons d'autres catégories de spécialistes comme ça. C'est-à-dire plus l'information va être émotionnelle, hein, schématiquement, et mieux on va la retenir. Ceci dit, c'est une façon de voir qu'a aussi ses limites, dans le sens où, arriver à un certain stade, cette puissance de l'émotion peut au contraire avoir des effets délétères sur la mémoire. C'est-à-dire que ce que je décrivais dans un premier temps, que la mémoire, elle est censée mettre le sujet dans un processus de reconstruction. C'est pas simplement garder des traces figées du souvenir, mais au contraire, mettre le sujet dans un processus d'élaboration des souvenirs et des connaissances. C'est-à-dire que le but de ce que l'on va vivre, ça va être d'être intégré progressivement à nos connaissances. Si au contraire, on est en présence d'une émotion trop forte, alors certains éléments du souvenir vont être fixés, vont même être définitivement fixés, et c'est ça leur problème. Et par contre, le processus d'élaboration de la mémoire, de synthèse de la mémoire, ne va pas s'opérer. C'est ce qui se passe, par exemple, dans ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique, qui est également une condition de mémoire qui a été très développée dans le cinéma ou dans la littérature, y compris en science-fiction. C'est-à-dire que le fait d'être en contact avec un événement traumatique, mais cette fois-ci un événement qui met en jeu notre propre intégrité ou l'intégrité de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on est témoin d'une scène insupportable, alors à ce moment-là, la mémoire ne va plus faire ce travail de synthèse, elle va mémoriser certains éléments qui vont devenir en quelque sorte ingérable pour la personne. La personne va donc avoir des retours, des flashbacks de ces éléments mnésiques sans pouvoir justement faire ce travail qui va permettre de les intégrer et de se les approprier sur un plus long terme.
Et oui, vous-même, comment réagissez-vous par rapport aux propositions, aux idées qu'aurait Ian MacDonald de la création comme ça de sentiments ou de ressentis du monde un peu différents?
Je crois parce que justement, il faut être extrêmement prudent, c'est ce que j'évoquais en commençant, c'est-à-dire il y a l'homme réparé, la mémoire, malheureusement, il y a tout un tas de pathologies qui la perturbent, de l'Alzheimer, les pathologies vasculaires, les traitements anticancéreux. Donc répondre à la problématique de la mémoire chez l'homme malade, c'est déjà un challenge absolument énorme. Et ce qu'on entend beaucoup, justement, à travers l'homme augmenté, vous êtes augmenté, je suis augmenté actuellement en vous parlant, si j'avais pas le micro vous pourriez pas m'entendre, donc on est déjà énormément augmenté à l'extérieur. Il faut voir qu'il y a un interdit éthique total de modifier ce qu'est l'homme, son cerveau, par l'intérieur avec des technologies, donc ça c'est un interdit, enfin en tout cas c'est un interdit que je pense tout chercheur de l'INSERM ou tout médecin va se donner. Et en fait, pourquoi se fatiguer avec des micro-nanotechnologies pour changer le comportement de quelqu'un, alors que ça marche si bien, la propagande, ça marche si bien. Donc l'histoire de l'humanité nous montre qu'on n'a pas besoin des technologies pour faire ça. Et en plus, alors là on arrive à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire l'homme augmenté, est-ce que ça existe? Est-ce que ça peut exister? Je crois qu'il faut faire très très attention, et par exemple sur la mémoire, imaginons, vous êtes tous ici en train d'écouter, et je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas fait, vous l'oubliez actuellement. Moi je partirais immédiatement si je faisais tout ce que j'aurais dû faire avant de venir ici. Donc oublier, c'est un processus de base qui est fondamental. Ça veut dire que ce qu'on voit dans certains livres de science-fiction avec une hyper-mémoire, il est probable que ça générera, enfin c'est mon avis personnel, ça générera de la pathologie. Donc il faut voir que dans ces visions de surhomme, qu'il y a des mouvements, en particulier aux États-Unis, sur le transhumanisme, c'est peut-être une grave erreur épistémologique. C'est-à-dire que la définition du surhomme telle qu'elle est dans certains livres de science-fiction va créer de la pathologie. Il est beaucoup plus facile d'être augmenté de l'extérieur, et où il y a des choses qui sont dans le domaine de la science-fiction qui, à mon avis, seront possibles, c'est qu'effectivement, toute l'information... Un cerveau, il est fait pour stocker de l'information, mais il est surtout fait pour bien fonctionner. Donc on peut tout à fait imaginer qu'à travers des interfaces homme-machine, on pourra se connecter avec des mémoires informatiques, de la même façon que je vais sur mon ordinateur, sur Wikipédia, quand je veux avoir de l'information. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît très faisable, peut-être même pas discutable, c'est la miniaturisation de mémoire flash accessible, comme je vais chercher un ordinateur. Mais attention à ce concept de l'homme augmenté.
Gérard?
Oui, j'entends bien, j'entends bien votre réserve à propos de l'homme augmenté. Cela dit, ça soulève explicitement une question à laquelle vous n'avez pas fait allusion, c'est que de la réparation à l'augmentation, il n'y a pas de frontière claire. J'ai, comme je suppose tout un chacun, ou alors vous allez immédiatement m'interner, assez fréquemment des petits trous de mémoire. Même parfois quand je fais une conférence ou un discours, et il m'arrive de demander à la salle où j'en étais, parce que je me suis lancé dans une digression et que j'ai perdu mon fil, comme on dit. Autrefois, ça ne m'arrivait pas ou ça m'arrivait moins quand j'étais plus jeune. Donc est-ce que me donner les moyens d'éviter ce genre d'incident sans profonde gravité mais désagréable serait me réparer ou m'augmenter? Je veux dire, il y a un immense champ dans tous les domaines entre ce qui procéderait de la réparation et de l'augmentation, si bien que de dire il ne faut pas augmenter, on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, le deuxième point que vous avez évoqué d'ailleurs, c'est que depuis très longtemps, peut-être 10 millions d'années, l'homme est prothétique. Et il est prothétique à partir du moment où il a commencé à tailler des bifaces, il est devenu prothétique et il s'est augmenté. Il n'avait pas des, des crocs ou des griffes très efficaces. Il s'est doté de griffes en pierre beaucoup plus solides qui ont permis de tailler des vêtements, enfin, etc. Donc, fondamentalement, l'humanité est prothétique. Maintenant, jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on en fait? Finalement, la science-fiction, pour ce que j'en sais, est beaucoup plus problématique et prudente que vous avez l'air de le supposer. Les transhumanistes me paraissent des fous furieux qui brillent surtout par leur ignorance.
Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Ma vision dichotomique, c'était pour mettre une alerte. Ça veut dire qu'effectivement, le vieillissement est un bon exemple. On va avoir des territoires frontières. Et mon alerte, c'est de dire que ce n'est pas aux scientifiques et aux médecins de décider tout seuls. Il faudrait qu'il y ait un encadrement de la société pour décider ce qu'on peut ou ne pas faire. La science-fiction est très intéressante pour nous parce que c'est un endroit où on peut faire plein de choses sans se préoccuper de l'éthique, peut-être, je ne sais pas, et qu'un bon laboratoire virtuel pour nous de ce qui se pourrait se passer, peut-être, et donc de générer une réflexion éthique en retour.
En tout cas, y a une pensée sauvage là. Et c'est cette pensée sauvage qui, par elle-même, n'engage pas grand-chose, mais permet de trouver des idées. Enfin, c'est une mine de réflexion.
Oui, moi, je veux bien réagir sur ces deux points. Le premier point, je pense qu'effectivement, nous, chercheurs, on est beaucoup plus à l'aise pour réparer la mémoire, même si on est, malheureusement, si on n'a pas encore suffisamment de découvertes dans ce domaine, que d'augmenter la mémoire. Alors, c'est vrai qu'il y a tout ce secteur des petits bugs de la vie quotidienne, hein, le manque du mot, le souvenir qui n'est pas directement accessible, et ces petits bugs vont s'accentuer quand on avance en âge. C'est un domaine, je pense, qui est très intéressant. Et là, il y a des avancées expérimentales qui sont très intéressantes sur les liens, notamment entre le sommeil et la mémoire. Et vous savez qu'il y a un rapport très fort entre la qualité du sommeil et la qualité de la mémoire. Et certains chercheurs ont eu l'idée et ont réussi à développer des technologies qui permettent d'agir sur la qualité du sommeil en resynchronisant certaines ondes qui sont indispensables pour la qualité du sommeil. Et on a vu en même temps, chez des gens en bonne santé, des gens âgés en bonne santé, une amélioration de leur performance mnésique. Donc là, on est sur un domaine qui est extrêmement intéressant. Le deuxième point qui est évoqué par M. Klein, qui est très intéressant, c'est de resituer l'évolution dans son contexte depuis très longtemps. Il y a eu des grandes inventions. Les hommes ont été capables de grandes inventions comme l'écriture, comme l'imprimerie, qui ont complètement modifié notre rapport à la mémoire. Et aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 10-15 ans, il y a un autre phénomène qui est peut-être encore plus important que ces découvertes passées, qui est l'accès extrêmement massif à des mémoires externes. Un accès extrêmement simple, il suffit de quelques clics, à des mémoires externes. Donc je fais allusion, bien sûr, à Internet. Et comment cette utilisation massive, c'était pas le cas de l'imprimerie, c'était pas le cas de l'écriture, va modifier notre cerveau et notre mémoire, hein, puisqu'on sait, quand on utilise des outils, notre cerveau se modifie. Alors, il y a eu une expérience très intéressante qui a été faite par des chercheurs américains, qui est parue dans une grande revue cet été, qui tente à montrer que quand on pose une question à quelqu'un, une question un petit peu difficile, par exemple, qu'est-ce que c'est que le fleuve jaune? Vous voyez, donc on a une vague idée, mais c'est quand même pas immédiat. On n'a pas une connaissance immédiate comme ça dans notre esprit du fleuve jaune. Eh bien, en utilisant une technique de psychologie expérimentale que je ne détaille pas, qui est bien connue des psychologues, eh bien, en fait, ce qu'ont montré les chercheurs, c'est que quand on pose une question comme ça, l'idée qui vient tout de suite aux chercheurs, c'est Internet. Ce sont des mots qui ont à voir avec Internet. Comme si, en fait, maintenant, quand on nous pose une question un petit peu difficile, on ne va pas rechercher la réponse dans notre cerveau-esprit, mais tout de suite, on va la chercher à l'extérieur. Et il y a comme ça plusieurs expériences qui s'enchaînent, qui sont très bien faites, et la suite des expériences tente à montrer que quand on sait que l'information est là, est en dehors de nous, eh bien, il n'y a pas d'utilité à aller plus loin, à essayer de l'encoder en quelque sorte en profondeur. On sait que si on veut apprendre, c'est ce que vous êtes en train de faire tout de suite, quand on veut retenir quelque chose, on essaie de comprendre le sens profond de ce qu'on vous dit. Eh bien, en fait, là, l'attitude des jeunes étudiants hein, qui se soumettent à cette expérience, eh bien, c'est de savoir au contraire, puisqu'ils savent que l'information se situe à tant de clics et à tel endroit, eh bien, c'est pas la peine de faire l'effort de la retenir. Alors là, je crois qu'on est un peu à la frontière de la science, hein, parce que ça, ce sont des données très récentes et qui font une photographie, en fait, de l'évolution du fonctionnement de notre mémoire aujourd'hui. On est un peu à la frontière de la science et de la science-fiction. Parce qu'évidemment, si on pousse le raisonnement très loin, voire à l'absurde, on pourrait imaginer là des personnages de science-fiction qui ne seraient que des personnages hub, en quelque sorte, hein, qui seraient au centre d'un réseau, mais où leur mémoire serait devenue totalement externe et qui n'aurait pas la capacité de synthèse que l'on a tous, que là on est en train d'échanger entre nous. Je crois qu'on se comprend à peu près les uns les autres, sans être branché tout de suite sur Internet ou sur avoir accès à telle ou telle mémoire externe. Là, je pense qu'il y a une évolution qui est très importante hein, et que l'on, quelque part, on subit. Hein. Alors, moi, je ne parle pas du tout de façon passéiste, hein, mais je pense que c'est très important qu'on ait conscience de ça et qu'en tant qu'éducateur, on ait conscience de ce changement.
Je crois que là, il y a des point important sur l'évolution de la société et la mémoire externe qui n'est finalement pas pas tellement de la science-fiction qui nous concerne aujourd'hui dans la société telle qu'on est. On est en plein dans cette société de mémoire externe qui devient de plus en plus puissante. Alors...
Yeah, because we think it's a recent phenomenon. It's not. It's actually a very, very old phenomenon indeed. And back in Renaissance times, there was a thing called the man who could know everything. And the man who could know everything was usually pretty wealthy. But what he had is he had a library of books. And if he wanted to know a bit of information about anything, he didn't have to know it himself. He could go and look it up in his library of books, because those books contained everything that was known and put down and stored in external memory at that time. And what we've done with Google and Wikipedia, in a sense, we've just gone back to that Renaissance mindset. We are the people who can know everything and, in a sense, know anything. And, in fact, what we do with it most of the time is looking up pictures of kittens. Seems to be the thing that we do with it most. But, in a sense, we haven't invented anything new. In the same way that the Internet hasn't really invented anything new. The original hard work in the Internet was done when they invented the wireless telegraph and connected America and other countries together by wires and evolved a communications network. All the Internet has done is put another layer of memory storage, made it a telephone system that can remember and access information. So in a sense, we aren't inventing anything very new. Externalizing memory has been going on more or less forever since people started drawing on caves in Lascaux. I imagine even then you had, the man who could draw, man or woman, yeah, usually men because men had the money in those days, but the man or the woman who could know anything because they could draw and represent and store a piece of visual reality for tens of thousands of years. So in a sense, we're not inventing anything really new.
Oui. Gérard, et ensuite peut-être...
Oui, volontiers. Alors, parlant de l'externalité de la mémoire, je voudrais vous décrire mon bureau à Paris. Alors bon, j'ai un bureau qui est couvert presque jusqu'au plafond de papier, de livres, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Je peux pratiquement plus y écrire. De toute façon, je n'écris pratiquement plus sur du papier. Mais à ma gauche, j'ai depuis longtemps, une très grande, très haute bibliothèque tournante. Cette bibliothèque tournante est remplie de dictionnaires, aussi bien de dictionnaires de langue que de dictionnaires encyclopédiques variés, et je m'y réfère extrêmement souvent. Et de l'autre côté, j'ai une petite table où se trouve mon ordinateur et mon accès à Internet. Alors, je vais de l'un, de la bibliothèque tournante, parce qu'en effet, je ne peux pas mémoriser tout ce qui se trouve dans ces encyclopédies ou ces dictionnaires. Je n'en ai même pas envie, simplement je sais que c'est là, ou bien je me tourne vers Internet, vers Wikipédia, etc. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue McDonald. C'est que Internet, Wikipédia, Google, enfin tout ce que vous voudrez, nous procure une multiplicité de liens. Or, dans ma bibliothèque tournante, ces liens n'existent pas de façon automatique. Éventuellement, ils passent par mon cerveau et je passe d'un bouquin à un autre. Seulement, ces liens peuvent présenter aussi un inconvénient majeur, et c'est quelque chose que je constate avec des jeunes étudiants, c'est qu'ils ont tendance, alors ne parlons même pas de la critique de l'information, mais disons simplement qu'ils ont tendance à indexer les informations qu'ils trouvent sur Internet sans, semble-t-il, les intégrer à leur synthèse personnelle, à leur personnalité synthétique. Si bien qu'ils savent qu'il y a ça et ça et ça qui se trouve sur Internet, et on reçoit, les universitaires le savent de plus en plus, des mémoires, voire des doctorats, qui sont du copier-coller. Et on a l'impression, et parfois on vérifie d'ailleurs, que les étudiants en question n'ont même pas lu les textes qu'ils ont copier-collés. Je sors un peu du sujet de la table ronde, là, mais comme on m'envoie de temps en temps des thésards en lettres en général ou en littérature comparée à propos de la science-fiction, je reçois donc des jeunes étudiants, très bien par ailleurs, qui je dis, par rapport à votre thèse, vous devriez lire tel ou tel livre, tel ou tel roman, telle ou telle nouvelle, enfin, etc., ou tel ouvrage de référence, et ils me regardent avec des yeux effarés, monsieur, lire.
Oui, je voudrais revenir sur votre commentaire sur Internet. Certes, l'homme a toujours eu des mémoires externes. Donc j'ai pris l'exemple des grandes avancées technologiques ou techniques, l'écriture ou culturelle, l'écriture, l'imprimerie, mais il y a bien sûr également des mémoires externes naturelles. C'est-à-dire que dans un groupe, on sait que telle personne va être expert en, je sais pas, en voiture ou en poisson d'eau douce, etc. Et donc si on a une question, on va s'adresser à la personne qui est censé être expert dans ce domaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une interaction avec cette personne, il va y avoir une discussion avec cette personne. C'est la même chose dans votre bibliothèque. Dans votre bibliothèque qui tourne, il y a des livres, et ces livres, il y a un accès qui n'est pas forcément immédiat. C'est-à-dire que vous allez prendre ce livre, vous allez rechercher la bonne page, etc. Il y a tout un travail d'investigation, de relation, j'ai envie de dire. À Internet, les choses sont un peu différentes. Premièrement, ça va très vite. C'est très facile d'accès, et le risque, c'est que l'interaction soit superficielle. Quand j'utilise ce terme, il faut le comprendre au sens fort. C'est-à-dire que c'est la différence d'un encodage profond de l'information. C'est-à-dire que l'information, elle va être simplement consultée en surface. Et puis, deuxième point, ce qui se passe chez les jeunes d'aujourd'hui qui ont utilisé Internet très tôt, très jeunes, c'est qu'ils sont capables, en fait, de manipuler plusieurs informations en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont être devant leur ordinateur, ils vont avoir leur smartphone dans la main, et éventuellement ils vont répondre au téléphone, etc., en même temps. Alors, ça, ce sont des conditions expérimentales. Quand on teste la mémoire, quand on veut gêner l'encodage en mémoire, en fait, on met les sujets dans cette situation-là. Quand on fait des expériences, vous voyez, pour mesurer la puissance de la mémoire. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que si on veut simuler une maladie de la mémoire, eh bien on met un sujet dans cette situation de tâches multiples. Alors, le challenge aujourd'hui, la question vraiment que je me pose, c'est est-ce que ces enfants, ces jeunes, vont être capables d'augmenter leur capacité cognitive et mnésique au point de... Alors certainement qu'ils sont beaucoup plus à l'aise que des personnes plus âgées pour manipuler ces informations de façon quasi synchrone, simultané. Mais la question qui se pose, vraiment, qui est une question de fond et qui est une question d'éducation, est-ce qu'en même temps, ils vont être capables de passer outre ces lois du fonctionnement de la mémoire, c'est-à-dire tout en traitant l'information en parallèle, est-ce qu'ils vont être capables de l'encoder en profondeur? Voilà un peu une façon de pour moi, d'aller au bout de cette question de la mémoire augmentée. C'est un peu ça une des questions posées aujourd'hui.
Oui, donc on se rend compte que la volonté d'augmenter la mémoire peut conduire finalement, enfin, tant qu'on n'a pas bien compris ce qu'on enregistrait, la manière dont on l'enregistre, ça peut conduire assez naturellement à des dérives, même si ce n'est pas des systèmes très technologiques. Ce que je vous propose, c'est peut-être s'il y a des questions dans la salle, parce que je pense que c'est un sujet qui doit faire réagir, oui.
Bon, bonjour. Vous n'avez pas abordé le sujet de la cartographie cérébrale. Enfin, vous en avez vite fait parler au début. Et je voulais savoir ce que vous en pensez, notamment, et quand ce sera potentiellement possible, et comment la société évoluera avec des êtres virtuellement immortels, entre guillemets.
Moi, je peux vous répondre sur la cartographie cérébrale, les méthodes d'imagerie cérébrale, si c'est votre question. Pour le deuxième point, je me sens beaucoup moins à l'aise, je dois dire. Peut-être que Gérard Klein va beaucoup mieux répondre que moi.
Pour la deuxième partie, je pense que...
La première partie, c'est vrai qu'on ne l'a pas tellement abordé dans le débat, c'est l'importance des techniques d'imagerie du cerveau, qui ont révolutionné ce qu'on appelle les neurosciences cognitives depuis une vingtaine d'années. Alors, comme dans toute grande découverte, il y a des dérives, il y a des choses qu'on met de côté. Alors, je ne sais pas le pourcentage d'articles qu'il faut mettre de côté, mais par contre, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, tout à l'heure, je prenais l'exemple dans la petite introduction, je parlais d'encodage, de récupération en mémoire. En fait, c'est extrêmement difficile quand quelqu'un a un trouble de mémoire de savoir si c'est un problème d'encodage, si c'est un problème de récupération, parce qu'en fait, on est en bout de chaîne, hein, on mesure en fait les performances comportementales à un test de mémoire, et donc c'est très difficile de savoir si c'est encodage ou récupération, et donc dans les maladies, c'est difficile de différencier encodage-récupération. Ben, l'exemple que je prends, une découverte scientifique majeure de ces dernières années, c'est d'avoir montré que des régions du cerveau différentes sont impliquées dans l'encodage en mémoire et dans la récupération en mémoire, avec même une spécialisation hémisphérique. Vous voyez, l'hémisphère gauche est plus spécialiste pour encoder les informations, il est dominant pour encoder les informations, et l'hémisphère droit pour le récupérer. Voilà un exemple qui, pour disons, la physiologie de la mémoire. Et puis dans l'étude des maladies de la mémoire, alors là c'est aussi des avancées extrêmement importantes. Mon collègue de Grenoble parlait tout à l'heure de travaux qui sont faits pour stimuler le cerveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les grandes maladies du cerveau, les grandes maladies neurodégénératives, eh bien on connaît maintenant très bien les lésions, la dynamique de ces lésions. Et on connaît également les répercussions sur le fonctionnement du cerveau. Vous voyez, il y a les lésions du cerveau. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, on sait que les premières lésions, elles touchent une région dont on a déjà un tout petit peu parlé, qui est l'hippocampe. Et en même temps, ces lésions de l'hippocampe, elles vont avoir des répercussions à distance dans des régions qui ne sont pas lésées. Vous voyez, où il n'y a pas encore de lésion du cerveau, mais il y a un dysfonctionnement du cerveau. Et ce qui a été montré dans une étude, certes préliminaire, mais quand même très intéressante, c'est qu'avec des stimulations du cerveau, on peut en quelque sorte remettre à niveau cette région dont le dysfonctionnement est patent. Donc ça, ce sont des pistes extrêmement intéressantes. Et donc, en cela, l'imagerie du cerveau, c'est vraiment une révolution scientifique de ces 10-15 dernières années, tant dans la compréhension des mécanismes de la mémoire, des mécanismes physiologiques de la mémoire, que dans la compréhension des maladies de la mémoire, l'histoire naturelle de ces maladies, et puis comment on va pouvoir tester de nouvelles thérapeutiques avec des outils, disons, j'ai envie de dire, beaucoup plus fiables que simplement l'étude du comportement, qui est difficile en fait à quantifier quand on a affaire à des groupes de sujets.
Alors, concernant la deuxième partie de la question sur la mémoire à long terme...
Oui. Alors, dans une nouvelle que j'ai publiée il y a presque 40 ans, qui s'appelle « Sous les cendres », j'ai imaginé, en effet, que la durée de vie des humains puisse être considérablement augmentée. Je ne précise pas le processus par lequel ça se faisait. Mais ça posait précisément un problème. Que devient la mémoire de quelqu'un qui vit plusieurs centaines d'années, disons pour faire simple, et a fortiori s'il devient immortel. Et j'ai été obligé d'imaginer une solution qui est celle de la mémoire holographique, c'est-à-dire de façon à vivre aussi longtemps, les cellules, y compris les cellules cérébrales, se renouvellent régulièrement. Alors, il y a transfert, je ne parlerai pas ici des processus, d'ailleurs que je ne connais pas, contrairement à mes distingués collègues, des processus de transfert de la mémoire d'un paquet de neurones à un autre paquet de neurones. Et donc, il y a de nouvelles cellules nerveuses qui sont régulières, qui apparaissent régulièrement, ce que depuis, d'ailleurs, on a objectivé, bien que ce ne soit pas tout à fait au même rythme. Et donc, la mémoire se déplace sur ce nouveau tissu cérébral. Et pourquoi mémoire holographique ? C'est parce que les souvenirs les plus anciens deviennent de plus en plus ténus. Un hologramme est un enregistrement à deux dimensions, enfin plus une toute petite troisième, qui a cette propriété que chacune de ces parties comporte l'ensemble de l'image, s'il s'agit d'une image. Si vous prenez un hologramme et que vous le déchirez en deux, vous allez avoir deux fois la même image, mais avec un grain plus important. Donc elle sera un peu moins précise. Alors dans la mémoire holographique, il se passe la même chose, c'est-à-dire que les événements très anciens vont devenir de plus en plus flous. Et ce que je dis dans ma nouvelle, c'est que quelqu'un qui aurait vécu de l'Antiquité romaine à nos jours n'aurait de cette Antiquité romaine que le souvenir à peu près, aux erreurs historiques près, que le souvenir à peu près de ce qu'on peut trouver dans des livres de l'enseignement primaire sur l'époque concernée. Puis j'ai appris un peu de temps après, qu'un neurologue célèbre, dont malheureusement le nom m'échappe maintenant, avait eu cette même idée de la mémoire holographique, c'est-à-dire d'une mémoire relativement diffuse dans l'ensemble du tissu cérébral.
Bon, pour le nom du neurologue, on peut peut-être chercher sur la mémoire augmentée qui est là.
Voilà.
Hein, est-ce qu'il y a encore...
Je pense qu'il suffit de taper mémoire holographique et je crains qu'on ne trouve pas mon nom, mais le sien.
Juste, il y a encore une question et ensuite on va arriver à la fin de l'heure.
Oui, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure la mémoire totale. Or, on sait qu'il existe des gens atteints d'autisme qui développent des capacités mémorielles très importantes et concernant la mémoire à long terme. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse analyser leur processus mémoriel pour être capable de comprendre comment ils fonctionnent, ou est-ce que justement leur cerveau est tellement mobilisé par cette capacité qu'on ne peut pas souhaiter ou on ne peut pas transposer cette capacité sur des gens atteints justement de maladies et qu'on pourrait espérer soigner.
Parce qu'effectivement, les fonctionnements hors normes du cerveau, que ce soit au niveau de la mémoire, il y a bien sûr les problèmes de mémoire, mais également ces formes d'hypermnésie ou de personnes atteintes d'autisme qui sont capables de mémoriser une scène avec des détails tellement précis qu'on ne comprend pas comment en tellement peu de temps ils ont fait cet enregistrement.
Non, votre question est excellente et je pense que la plupart des choses que l'on connaît sur le fonctionnement de la mémoire humaine, c'est peut-être à 80% des choses que l'on a apprises à partir de l'étude de patients, alors de patients atteints de différentes formes d'amnésie. Et c'est vrai que l'autisme est une des pathologies qui est étudiée. Et ce sont certains patients autistes qui ont effectivement des capacités de mémoire exceptionnelles, notamment des capacités de mémoire perceptives, qui vont être capables de visualiser des scènes avec des détails tout à fait impressionnants. Je pense que vous avez tous vu des choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ces autistes ont des capacités de mémoire très importantes. Ce sont des capacités de mémoire qui sont spécialisées dans certains domaines, et notamment dans le domaine perceptif. Alors, au-delà, votre question, elle pose le problème des hypermnésies. Hein, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des amnésies, on parle assez peu des hypermnésies. Il y a schématiquement deux types d'hypermnésies. Il y a des personnes qui sont pas malades, qui vont choisir de développer leur mémoire et qui peuvent éventuellement se présenter dans les musicals. C'est tout à fait impressionnant, des gens qui sont capables d'aligner des séries de chiffres, du nombre pi, etc. Enfin, il y a des exemples tout à fait célèbres. Là, en fait, c'est l'utilisation intensive, pour des raisons diverses, hein, y compris pour son travail, c'est l'utilisation de moyens mnémotechniques, qui est en fait quelque chose que nous, hommes du 21e siècle, on a un petit peu perdu, mais qui existait dans le passé, hein, quand on n'avait pas justement ces supports externes. C'est vrai que là, c'est ce qu'on appelle l'art de la mémoire. Hein, ça a été, il y a un livre que je vous conseille, qui est magnifique, qui a été écrit par une Anglaise, qui s'appelle Madame Yates, qui s'appelle l'art de la mémoire, et en fait, où elle explique dans le passé comment les grands auteurs qui se livraient à des exercices de rhétorique, eh bien, se représentaient un palais, par exemple, etc. Vous voyez, donc ça, c'est l'utilisation de moyens mnémotechniques. Et puis, l'hypermnésie, c'est aussi une pathologie. C'est aussi une pathologie développementale qui ressemble un petit peu à l'autisme, même si ce n'est pas l'autisme. On sait maintenant qu'il y a différentes pathologies développementales. Et en fait, ces personnes qui sont hypermnésiques, elles sont en même temps amnésiques. Alors, elles sont hypermnésiques parce que quand on les interroge, c'est extrêmement impressionnant. On leur dit, par exemple, 4 juillet 2003. Moi, si je vous dis 4 juillet 2003, sauf exception, vous ne dites rien. Parce que cette journée n'est pas marquée dans votre esprit. Et ces personnes vont vous dire 3 ou 4 événements de la journée, des événements historiques que l'on peut vérifier en reprenant les journaux télévisés du jour ou les journaux du jour, et puis des données également personnelles qu'on peut vérifier quand les personnes tiennent un journal intime. Alors c'est très impressionnant, mais en même temps, ce qui se cache derrière ce qu'on appelle un échafaudage, c'est une sorte d'échafaudage, c'est cette incapacité pour ces personnes à faire le travail de sémantisation des souvenirs que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'individu normal, justement, ne va pas retenir ces événements un peu dérisoires, parce que ce qui se passe dans une journée, les événements eux-mêmes sont souvent dérisoires, sauf par exemple les tours du 11 septembre, où là c'est un événement majeur pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Mais en dehors de situations très particulières, dans une journée, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, vous allez mémoriser ce qui se passe et vous allez l'intégrer à vos connaissances générales. Et en fait, ces personnes qui ont une hypermnésie n'ont pas cette capacité à sémantiser. Et pour contrecarrer cette incapacité de sémantiser, bien, ils vont construire en quelque sorte un échafaudage qu'on appelle hypermnésie, mais en fait, qui est en fait un défaut de mémoire. Voilà un peu pour eux.
Merci bien. Alors, on sent bien qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui n'ont pas été abordés, parce que entre toutes les propositions qu'on peut lire dans les nouvelles de science-fiction, tous les rêves et les fantasmes et la réalité, il y a des ponts, mais il y a également des impossibilités. Mais malheureusement, l'heure est terminée. Et en tous les cas, je remercie tous les participants, car je pense que c'était également très intéressant, comme beaucoup de tables rondes ici. Merci.